RCF.
Coup d'avance, le magazine d'un territoire innovant proposé par RCF en partenariat avec la ville de Saint-Étienne. Saint-Étienne change le monde avec design, avec créativité, avec innovation, avec passion. Chaque semaine, découvrez les entreprises qui font la richesse de notre territoire.
Bonjour, comment faire face aux attaques numériques aujourd'hui? Sûrement que parmi vous, vous-même ou des connaissances ont été victimes de ces attaques et l'on sait comment la vie quotidienne peut devenir compliquée lorsqu'on ne peut plus se servir de son compte Internet. Il existe une société stéphanoise, Serenicity, qui a mis en place des procédés techniques et toute une organisation pour aider les entreprises prestataires à faire face à ces attaques. On en parle tout de suite avec son directeur général, Fabrice Kosik. Bonjour Fabrice Kosik.
Bonjour Anne-Marie.
C'est d'une bonne définition ce que j'ai donné en commençant?
Oui, tout à fait. Il faut faire sortir la cybersécurité de son carcan réservé à des experts parce qu'aujourd'hui c'est un risque majeur pour toute entreprise, toute organisation et par rebond le particulier. Donc oui, c'est une très bonne définition avec une actualité qui malheureusement démonte tous les jours avec les hôpitaux.
Voilà, c'est ce que j'allais dire.
Jour après jour, tout à fait, qui sont attaqués.
Cette société, elle a 4 ans, vous êtes aujourd'hui 5 associés. Vous êtes tombé dans la marmite du numérique, on peut dire, dès vos études.
Tout à fait. La Loire a cette chance de proposer des formations numériques et autour des télécommunications et l'informatique depuis de nombreuses années. Donc, je suis ingénieur maître de l'IUP Télécom, ancêtre de Télécom Saint-Étienne, auquel j'interviens aujourd'hui. Et j'ai eu la chance dans mon parcours d'aider à développer la fibre optique sur le territoire de la Loire, qui place d'ailleurs le département de la Loire parmi les premiers départements fibrés. Ça, on l'oublie souvent, mais il faut le rappeler. Et aujourd'hui, on a ce coup d'avance d'essayer de cyber-protéger avec une confiance accrue les usages numériques de ces territoires.
On a évoqué la cybersécurité, on parle de numérique, cyber, ça fait un peu cyborg, ça évoque les robots. Quelle différence ou quelle complémentarité ou bien quelle équivalence entre les termes, Fabrice Kosik?
En fait, cyber, si on fait l'analyse du terme lui-même, veut dire gouverner à l'origine.
En grec.
Tout à fait. Et c'est là où aujourd'hui on s'aperçoit qu'avec ces réseaux numériques, parce que c'est vrai que la cybersécurité, les réseaux et autres, c'est le numérique qui est autour de nous, pour lequel on perd un peu pied aujourd'hui, parce que les choses ne sont pas très visibles et vont à très grande vitesse. Aujourd'hui, pouvoir rendre visible cet invisible, notamment sur les risques pris et sur les informations transmises, permet de se sécuriser. L'idée derrière aussi est d'automatiser, ça ce sont nos innovations, d'automatiser cette protection, parce que face à des robots d'attaque utilisés par des hackers et des pirates, pour être capable de se protéger est important. De manière automatisée.
On va parler justement on peut parler d'une sorte de produit que vous avez imaginé, mis en place. Comment est-ce qu'on finit par trouver un moyen de lutter et de faire face à ces attaques numériques, ces attaques cyber?
Alors, je n'aurais pas la prétention de dire que nous avons réglé le problème de la cybersécurité avec un seul produit et notre produit. Je serais en difficulté en disant ça et pas très crédible. Néanmoins, on a pris un postulat de base avec tous mes associés. On a des univers très, très partagés. Moi, en tant qu'ingénieur télécom, un informaticien, un ancien patron d'un grand groupe de la distribution très locale qui nous a rejoint aussi. Et de se dire comment on peut bloquer un maximum d'attaques pour les entreprises ou les organisations les moins à même de comprendre ce qui se passe. Et c'est comme ça qu'on a créé un mécanisme assez simple. On se fait attaquer en permanence, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et on apprend de ces attaques.
Et comment vous faites? Parce que pour que le chat vienne manger la souris, il faut qu'il sache qu'il y a de quoi manger là.
Alors, c'est une des particularités du monde numérique, c'est que les attaquants, se faire connaître du chat, c'est le chat qui fait tout le tour un peu partout. Il faut imaginer un chat qui peut se déplacer dans le monde entier en permanence à des vitesses incroyables pour venir, le terme consacré, sniffer les...
J'étais pas loin.
Voilà, c'est ça. Exactement. Sniffer les ordinateurs, les machines connectées pour voir si elles ont des failles. Et en fait, tout à l'heure j'utilisais le terme de robot d'attaque. Ce sont des logiciels derrière qui font ce travail. Il ne faut pas imaginer
qu'il y a... Oui, ça tourne, il n'y a pas un être humain 24 heures sur 24 derrière.
L'être humain lance l'opération et en fait, les attaques, les requêtes d'attaque se font en permanence pour sniffer, voir ce qui se passe et essayer d'entrer. C'est un de nos brevets, hein, ce que je suis en train de vous décrire. Ils viennent sniffer certains de nos équipements. Ils ont un comportement qui n'amène aucun doute sur le fait qu'ils veulent, ils ont des intentions malveillantes. Et donc, en connaissant ces intentions malveillantes, on apprend et on constitue une base de connaissances de ces attaquants.
Il faut être très sûr de soi. Il ne faut pas se dire, tiens, ils vont réussir à rentrer quand même. Enfin, j'imagine que c'est...
Alors, c'est là la bonne nouvelle, c'est que ils peuvent rentrer sur ces machines, il ne se passera rien. Parce qu'en fait, ce sont vraiment des machines prévues pour être hackées. Il n'y a aucune information, aucune utilisation qui peut être en fait. Par contre, on apprend un certain nombre de choses. Et ces choses, eh bien, nous, on les apprend pour venir protéger le patrimoine numérique des entreprises et des organisations à l'entrée de leur système d'information. Et c'est là où... On a voulu, nous, être par rapport au sujet complexe de la cybersécurité. Hein. Moi, je viens des télécoms, c'est déjà un monde compliqué, mais alors la cybersécurité, c'est un échelon au-dessus. Et aujourd'hui, être capable de dire, on va regarder tous les flux qui rentrent et qui sortent et on va les détoxifier pour supprimer ceux qui viennent ou qui vont vers des destinations malveillantes. Encore faut-il être capable de le faire, ça c'est nos brevets et notre capacité de développement, mais c'est quand même assez simple, l'image qu'on donne tous les jours, vous sauriez que quelqu'un rentre chez vous ou essaie d'entrer chez vous, le bon sens ferait que vous ne laissez pas rentrer. Et bien en fait c'est un peu la même chose qu'on réalise aujourd'hui dans la cyberprotection des organisations.
En vous écoutant, je pense à deux types de protection, ça peut être effectivement ne pas laisser rentrer. Est-ce que ça peut être, vous avez utilisé le terme détoxifier, est-ce que vous pouvez nettoyer le système qui aurait été envahi par une attaque malveillante ?
Alors, tout à fait. On a créé un outil de nettoyage. Quand on a identifié et bloqué la menace, on est capable de dire aujourd'hui, par une interface très simple, de dire c'est tel ordinateur qui est contaminé, c'est telle machine-outil, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des outils de production connectés aujourd'hui.
Tout à fait. Robotisés.
Exactement. Et donc de dire, on peut poser un nettoyeur, alors ça s'appelle un agent et un service qu'on installe a posteriori, une fois qu'on a identifié le problème. Et donc, on peut savoir quel est le logiciel en cause sur cet ordinateur, ce serveur, et l'extraire pour le nettoyer. Donc ça, c'est le rôle de nos partenaires, parce que nous sommes l'éditeur, le créateur de cette solution. Et aujourd'hui, nos 60 partenaires en France proposent ces solutions et trouvent un écho de plus en plus favorable, malheureusement lié à l'augmentation des nombres d'attaques.
Pour pousser un peu plus cette partie technique et mieux la comprendre, Fabrice Kozik, est-ce que l'on peut dire que vous avez créé un pare-feu à la française ?
Alors, on n'a pas créé un pare-feu à la française et c'est très intéressant parce qu'on pense, ça c'est le terrain et les échanges, quand on nous demande d'expliquer notre solution, on a un hybride. On ne fait pas tout ce que fait le pare-feu. Parce que le pare-feu fait plein de choses et il y a des très bonnes sociétés en France qui sont capables de le réaliser et dans le monde entier. Mais par contre, ils ont une limite qui est liée à leur construction. Ils analysent les trames qui passent et en les analysant, en fait, on peut ralentir le réseau. Donc nous, en fait, on se limite dans notre analyse sur des couches de niveau 3. Un peu de technique qui ne parle pas à tous les auditeurs, je pense. Mais simplement, on reste plus bas dans les couches du protocole de transmission. Et en restant plus bas, on vient compléter le service. Je vais vous donner un exemple très simple, un fait très concret. Là où certains firewalls ont des mécanismes qui s'approcheraient un peu de notre approche, ils peuvent comparer les flux entrants sortants à 20 à 25 000 IP toxiques et menaces connues. Nous, aujourd'hui, on en apprend 10 000 par jour. Et on peut en protéger et en regarder jusqu'à 600 000.
L'échelle n'a plus rien à voir.
Exactement. L'échelle et la capacité de traitement, parce qu'il y a des mises à jour toutes les 30 minutes de ces informations. Ça, c'est un élément très important. La menace évolue en permanence. Et cette menace qui évolue, elle doit nécessairement être suivie et être alimentée. C'est d'ailleurs ce qui a convaincu un certain nombre d'acteurs nationaux de nous faire confiance.
On va en parler tout de suite.
Coup d'avance, le magazine de l'innovation dans la Loire, RCF.
Dans cette émission Coup d'avance, je suis en compagnie de Fabrice Kosik, directeur général de Serenicity, une entreprise qui est là pour protéger, donner les moyens aux entreprises prestataires de protéger d'autres entreprises ou des particuliers contre tout ce qui est les cyberattaques. On va parler maintenant justement de vos marchés, si vous le voulez bien, Fabrice Kosik, et puis de vos nouvelles innovations. En termes de marché, on avait eu l'occasion déjà de vous recevoir à propos de cette question de la cybersécurité avec Jean-Michel Miss, qui était à l'époque l'un des députés de la Loire et spécialisé justement à l'Assemblée nationale sur cette problématique de la cybersécurité. Vous aviez en vue certains marchés importants. Aujourd'hui, ils se sont conclus. Quels sont-ils, ces marchés ?
Il y a plusieurs marchés qui étaient, je dirais, en attente de retour. Et puis des conventions aussi, des échanges avec des partenaires. Celui-ci est vraiment celui qui nous rend le plus fiers, c'est qu'aujourd'hui, les bases de données que nous constituons, nous les partageons avec le commandement cyber de gendarmerie et la police judiciaire. Dans le cadre de deux conventions que nous avons signées avec eux, nous engageons à leur fournir des informations parce que la lutte, vous évoquiez la protection du particulier, alors c'est plus en indirect qu'on protège
le
particulier.
Oui, c'est ça. C'est les entreprises que vous, qui sont vos clientes et qui, à leur tour, vont pouvoir aider les particuliers.
Voilà. Mais derrière, c'est surtout en aidant la police judiciaire et le commandement cyber de gendarmerie à mieux connaître les attaquants, parce qu'ils ne font pas de distinguo entre le particulier et l'entreprise, hormis quand ils viennent chercher des choses très spécifiques. Grâce à cela, on aide la cause, quelque part, au niveau national, à mieux se protéger. Et en échange, on a, dans nos bases, on les enrichit de ce qu'on appelle des marqueurs fournis par les institutionnels, qui nous permettent tout simplement de protéger de ces attaquants connus des gendarmes, connus de la police judiciaire, à l'entrée du système d'information. Et ça, c'est un élément très important parce que, on a une base souveraine, on ne l'a pas évoqué, mais souveraine au sens où on contrôle ces informations sans forcément être soumis à des lois extraterritoriales de constructeurs et de fabricants étrangers. Nos produits sont fabriqués à 100% à Saint-Étienne, donc en France, donc non soumis à des lois extraterritoriales de collecte de données. Et donc, on peut se protéger de cette manière. Donc ça, c'est le premier effet marquant chez Serenicity. Le second, c'est que avec le Conseil départemental de la Loire, nous avions soumis un projet dans le cadre du plan de relance de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, pour protéger un maximum de collectivités et de communes. Eh bien, ce plan a été validé. Et donc, une subvention sera attribuée. Reste à définir d'ici la fin d'année le périmètre exact. Ce sont les objets complets. Mais ça démontre que l'innovation nationale portée par le département, c'était le seul département à porter ce type d'offre, était reconnue aussi bien par l'ANSSI que par le plan de relance. Et ça, c'est un fait qui nous tient à cœur aussi. La Loire était en avance sur le très haut débit. La Loire se trouve encore en avance sur la lutte contre la cybercriminalité.
Et puis, un autre événement très proche, puisque la semaine dernière, dans le cadre des trophées de la sécurité, par rapport aux innovations justement de cette sécurité, vous avez été déclaré lauréat en ce qui concerne la télé-cyber, une nouvelle innovation, Fabrice Kosik.
Tout à fait. Là, c'est la reconnaissance par un partenaire. Aujourd'hui, nous sommes 11 personnes chez Serenicity. On pourra parler du recrutement locaux et de la richesse de notre territoire ligérien. Là, en fait, c'est la démonstration qu'un acteur national, d'envergure nationale, qui a des moyens, ERIMA, groupe Sogetrel, qui a choisi nos solutions pour créer la télé-cybersécurité. En quoi ça consiste ? Aujourd'hui, vous devez certainement connaître les opérateurs de télésurveillance qui regardent les contrôles d'accès, qui regardent des caméras pour voir s'il y a des problèmes et qui vous alertent quand il y a un problème en temps réel. Mais là, avec nos outils, ils vont aussi vous alerter quand il y aura un arrêt ou une tentative d'entrée sur votre système d'information. Parce qu'en fait, pourquoi le patrimoine physique serait plus important que le patrimoine numérique dans une organisation? Il ne l'est plus, on le constate aujourd'hui, quand un hôpital s'arrête, revenir au papier, c'est...
Rapidement, c'est ça le problème aussi.
C'est ça.
Or, les malades, il faut les soigner tous les jours.
Exactement. Et il y a un chiffre qui est sorti la semaine dernière, là, que j'ai relayé sur les réseaux sociaux, c'est qu'une étude a démontré que dans 20% des cas, la mortalité augmentait. suite à une cyberattaque. Donc ça veut dire que ce n'est plus un risque uniquement numérique de désorganisation, mais c'est un risque vital. Quand vous déprogrammez un certain nombre d'interventions, vous avez un impact forcément sur la mortalité. Aujourd'hui, c'est 20% d'augmentation de la mortalité qui a été évaluée par des organismes sérieux. Donc
c'est énorme.
C'est énorme.
Comme conséquence, quand on parle de télé-cybersécurité, vous évoquez un prestataire qui fait de la télésurveillance, c'est-à-dire avec de l'image, mais télé, ça ne veut pas dire seulement ça, ça veut dire de loin. En l'occurrence, c'est ça. Vous n'êtes pas en train d'aller mettre une caméra sur les canaux numériques.
Non, bien sûr.
Une télé qui prend des images, en l'occurrence.
Voilà, si vous voulez, en fait, on essaye chez Serenicity de simplifier, de vulgariser la cybersécurité. D'abord et avant tout, on veut être protégé. On veut être cyberprotégé. Et donc, pour y arriver, utilisons des méthodes qui existent. Vous donnez l'exemple de caméras, mais ce n'est pas uniquement des caméras, ce sont aussi des alertes d'intrusion, une vitre cassée.
Les alarmes qu'on a dans les entreprises, par exemple.
Exactement. Et là, il y a des opérateurs qui, en temps réel, vous disent « Attention, il y a un problème, il y a la levée de doute, et puis derrière, c'est une action ou l'appel des forces. » Aujourd'hui, savoir que l'ordinateur du chef d'entreprise est attaqué par des pirates qui essayent, qui sont connus et reconnus des gendarmes ou de la police judiciaire, c'est la même chose. Et aujourd'hui, être capable d'offrir ce service en simplifiant son accès permet d'avancer sur ce point-là. Et dernier point, dans les belles nouvelles aussi de cet été, on a été choisi pour protéger un aéroport. Alors, pas cité, on est quand même dans ce monde de la sécurité, et aussi une compagnie aérienne.
Aéroport français ?
Oui, un aéroport français et une compagnie aérienne qui nous font confiance pour aujourd'hui sécuriser leur connexion pour mieux se protéger, parce que malheureusement, il y a des attaques qui touchent l'actualité, ne fait pas forcément écho, mais qui peut désorganiser certaines compagnies et certains aéroports.
Et puis, dernière momentanée innovation, Fabrice Kosik pour Serenicity, c'est l'évaluation du cybercarbone. On oublie trop souvent que lorsque l'on se connecte à son ordinateur, ça coûte de l'énergie. Ce mot-là, il parle à tout le monde en ce moment.
Et oui, tout à fait. Parce que protéger les organisations, on voit passer les flux, on n'analyse pas ces flux, mais on voit où ils vont, et s'ils vont vers des destinations toxiques, comme vous l'avez compris, on les bloque. Mais les autres, on sait dire combien, quel volume est transmis. Et grâce à ce volume et à ces destinations, on est capable, avec l'utilisation d'ABAC de calcul de l'ADEME, d'évaluer, je dirais, l'équivalent de gaz à effet de serre qui est utilisé par cette connexion. Parce qu'aujourd'hui, aller chercher un data center à l'autre bout de la planète, de manière gratuite sur son ordinateur ou sur son smartphone, en fait, on ne se rend pas compte de l'impact carbone que cela peut avoir. Et donc, pour commencer cette démarche et sensibiliser, nous avons créé l'indicateur de cybercarbone qui permet aux entreprises d'apprendre ce qui se passe sur leur système d'information quand ils utilisent leur connexion.
Ça veut dire qu'il faut peut-être aller vers une forme de sobriété aussi numérique.
Et l'étape suivante, vous l'avez tout à fait compris, ça semble une évidence. Comment on rend plus sobre ses connexions ? Comment on fait en sorte de diminuer l'impact de ses réseaux ? Et là, on pense modestement, mais tout un champ du des possibles à réaliser chez Serenicity, ce sont nos axes un axe de travail sur les prochains mois et prochaines années, c'est de dire comment aider les organisations, publiques ou privées, à être plus sobres. Alors, il y a des choses très simples. Je vous en donnerai une, je crois qu'on l'avait déjà donnée la dernière fois que j'étais venu à ce micro, mais je vais la répéter parce qu'elle est deux fois plus pertinente. Éteindre son ordinateur ou son équipement quand on ne s'en sert pas, mais l'éteindre, pas le laisser en veille, c'est un, éviter qu'il serve de rebond parce qu'il peut être rallumé par un pirate qui est déjà en place, et deux, c'est diminuer la sobriété. Les mises à jour ne se font pas, certains flux se font pas quand vous n'êtes pas au courant, attention, il faut faire les mises à jour, mais l'idée c'est d'être conscient et de reprendre la connaissance, la gouvernance de ce qui se passe sur votre informatique. Et là, du coup, demain, l'étape d'après, c'est de dire, est-ce que tous les outils que j'ai sur mon ordinateur, tous les outils que j'ai sur mon smartphone, ont-ils bien un intérêt face au coût énergétique qu'ils représentent ?
On est à la fin de cette émission, Fabrice Kosik. Vous êtes aujourd'hui 11 collaborateurs, dont les trois derniers, je crois, sont des stagiaires, des ingénieurs stagiaires qui sont restés chez vous. On est dans le local, je crois que c'est vraiment une des volontés de vous et de vos associés à Serenicity. 4 ans d'existence, quel chiffre d'affaires ? Est-ce que vous avez vu, bien sûr, la courbe de croissance monter ?
Oui, tout à fait. On voit notre courbe et aujourd'hui, on est sur des projections qui sont conformes à nos prévisions ajustées lors du Covid. Aujourd'hui, on va s'approcher sur l'exercice de 2022, des 650 000 euros après un premier résultat à 250 000 euros l'année dernière. Donc, on grandit. Oui, les courbes d'accélération et surtout le portefeuille est de plus en plus rempli. Vous évoquez les étudiants. Alors, oui, ce sont deux étudiants de Télécom Saint-Etienne, hein, proximité, qui ont fini leur stage. Et puis, c'est aussi les CISAR de Valence, qui est spécialiste dans la cybersécurité. Donc, peut-être aussi, j'invite les entreprises de la Loire qui ont des réflexions autour de cette cybersécurité, des projets de travaux et d'innovation, à se rapprocher de les CISAR et Télécom Saint-Etienne, parce que c'est vraiment dans le cadre de collaboration avec ces écoles que nous avons identifié des talents. Et ces talents, on a réussi à les convaincre, hein, parce que ils étaient chassés un peu partout, mais ils ont choisi de travailler avec nous. Et on en est très fiers parce que c'est la démonstration qu'en local, on peut faire beaucoup de choses. Et Auvergne-Rhône-Alpes est un vrai terreau pour le développement de solutions innovantes dans le numérique.
Fabrice Kozik, merci beaucoup.
Merci.
C'était Coup d'avance, le magazine d'un territoire innovant proposé par RCF en partenariat avec la ville de Saint-Étienne. Saint-Étienne, ville UNESCO de design et labellisée French Tech, Design Tech, cultive ses talents.